www.libradio.org. La radio qui entretient le suspense.
Voilà, donc nous sommes à nouveau en direct depuis notre studio 99 ici à Genève et nous essayons, ça devrait marcher sans aucun problème d'ailleurs, de contacter Pascal Bergeron avec qui nous allons parler du camp de la rivière. Le camp de la rivière, c'est en Gaspésie. La Gaspésie, c'est au Québec. Le Québec, c'est au Canada. Etc, etc. Et il faut savoir que la Gaspésie, mais nous allons en parler mieux avec Pascal Bergeron. Bonjour à toi, Pascal.
Bonjour.
Ah ben, on est ravis de t'entendre parce qu'on a eu quelques petits soucis techniques qui fait que ben, on est désolé, on s'excuse du retard que l'on a pour notre partie, pour notre entretien. Mais voilà, on est quand même content que l'on puisse se parler. Alors, bienvenue à toi. Merci de ta disponibilité parce qu'il est à Québec bien plus tôt qu'ici. Et que j'espère que pour toi, ça va en tout cas, ce retard. Alors, disais-je, bienvenue. Nous allons parler ensemble du camp de la rivière. Alors, pour situer la chose, au moment du sommaire de l'émission, j'avais dit que c'était en Gaspésie, que la Gaspésie est une péninsule du centre-est du Québec, du centre-est du Québec, et que nous allions parler de lutte contre le déplacement des populations, contre le pillage des ressources naturelles, contre l'extractivisme, la fracturation et les hydrocarbures. Est-ce que tu confirmes ces mots ou est-ce que tu aimerais en rajouter?
Ça fait pas mal le tour des enjeux qui nous préoccupent en ce moment au camp de la rivière.
D'accord, donc j'étais relativement juste dans mon énoncé.
Oui.
D'accord. Alors dis-nous, effectivement, peut-être que... À toi la parole. Vas-y, vas-y.
On est localisé en Gaspésie. C'est la péninsule à l'extrême est du Québec, à 20 km du bout du Québec complètement, qui est Gaspé, l'endroit où Jacques Cartier a mis les pieds et a rencontré les premières communautés autochtones, le berceau du Canada, comme il l'appelle dans le langage colonial. Puis on s'est établi là à la suite d'une barricade qu'il y a eu cet été. Ça a commencé le 8 août. Il y a des gens masqués qui ont pris qui ont installé le 7 août une barricade à un endroit, à un site de forage qui est la propriété de la compagnie Junex. Puis ils ont par là manifesté le fait qu'ils arrêtaient les travaux. Ces gens-là ont refusé de parler aux médias, aux médias de masse. Le camp de la rivière s'est installé dès le lendemain comme camp de support aux gestes de blocage des travaux de forage pour des hydrocarbures.
D'accord. Alors, pourrais-tu nous en dire un peu plus qui est dans ce camp, depuis quand et selon toi, pour encore combien de temps? C'est-à-dire dans quel but, en fait?
Le but du camp de la rivière, c'est de susciter une mobilisation, d'être un point de convergence contre le développement des hydrocarbures en Gaspésie. Au Québec, il y a eu plusieurs projets de forage d'hydrocarbures, certains pour lesquels on annonçait de la fracturation, d'autres qu'on annonçait comme conventionnels. Mais au final, on se rend compte qu'on va devoir fracturer là aussi pour retirer les hydrocarbures. Puis nous, ce qu'on veut au camp de la rivière, c'est qu'il y ait un arrêt complet des travaux de forage et de fracturation partout dans la province, spécifiquement en Gaspésie, qui est à l'avant-plan de ces travaux-là, que les permis soient retirés. Donc, à savoir combien de temps on va rester là encore, je crois que ça va dépendre du gouvernement puis des compagnies. Je crois bien qu'on est parti pour rester là tant aussi longtemps que les compagnies ne seront pas sorties, puis ça, ben, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois, des années, on ne sait pas.
D'accord. Les populations, la population locale, est-ce qu'elles vous soutiennent? Est-ce qu'elles sont un petit peu désinformées et qu'il faut quand même faire ce travail-là pour leur dire, attention, la fracturation, c'est extrêmement néfaste immédiatement et à long terme encore pire. Où est-ce que ça en est de ce côté-là?
On a la... Puis des populations... OK. À Gaspé comme tel, c'est mitigé. C'est à peu près la moitié des gens qui sont très favorables à notre occupation. Il y a une autre moitié qui manque d'informations et puis sur laquelle on travaille justement pour leur amener pour amener l'information sur la fracturation, sur les dangers de cette exploitation-là. Puis il y a peut-être un 10 % de la population de Gaspé qui est farouchement opposée. Dans les villages autour, il faut savoir que au Québec, on fonctionne, le territoire est divisé en régions administratives. Il y en a 16 au total. Puis chaque région est subdivisée en MRC. En Gaspésie, on en a 5. Puis la MRC de la côte de Gaspé, où on est en train d'implanter ces projets d'hydrocarbures, c'est la municipalité la plus dévitalisée au Québec. Il y a 4 petits villages. Grande Vallée de Murdochville. Murdochville, il y avait une grosse mine de cuivre là, jusqu'en 2003. La mine a fermé. Il y a eu un référendum pour fermer le village. Et puis, ça n'a pas passé. Ils ont gardé le village ouvert. Mais il n'y a plus rien à part une station de ski qui est en train de redonner un peu de vie dans le village. Mais c'est pas grand-chose. Là. Donc, quand les gens sont.
Pardon, quand tu dis fermer le village.
Dans ces 4 villages-là sont attachés à un potentiel de développement économique, de création d'emplois que ces projets d'hydrocarbures.
Ah. Ouais. Là, j'entends plus tout d'un coup. Ça, c'est...
Puis, l'autre partie qui est capitalisée sont très farouchement opposés à notre présence. Ils nous traitent comme des gens de l'extérieur. Ils pensent qu'on est des gens de Montréal qui viennent apporter la vision de la métropole dans une région qui en a pas besoin. Voilà. D'accord. C'est des gens qui sont pas au courant, ben, ils sont ou bien pas au courant des conséquences néfastes possibles des projets d'hydrocarbures, ou bien ils savent et ils veulent juste pas les voir. Ils ont vécu à côté d'une grosse mine de cuivre qui a complètement dévasté le territoire pendant des décennies. Et ils s'en soucient très peu puisque ça créait des emplois, que ça permettait de d'alimenter un mode de vie avec le pick-up, la grosse TV, puis toutes ces choses-là. Là. Mmh. Donc, ils sont attachés à ça.
D'accord. Quand tu as dit fermer des villages, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on déplace des populations qui habitent là? Et qu'en est-il des populations autochtones, effectivement, qui sont, j'imagine, attachées à ces terres? Voilà, comment est-ce qu'elles réagissent?
OK. Côté population autochtone... je mentionnais au début que quand Jacques Cartier est arrivé au Canada, la première place qu'il a accosté, c'est Gaspé. OK? Donc, la colonisation a eu cours depuis très, très, très longtemps dans cette partie-là du Québec. Et les Autochtones sont pratiquement tous confinés dans des réserves. Même à Gaspé, ils ont tellement été... leur territoire a tellement été réduit comme peau de chagrin qu'ils ont même pu... une réserve, ce que les autres peuples autochtones ont ailleurs sur le territoire. Ils ont un conseil de bande et une population qui est disparate sur le territoire. Ces populations-là ont déjà été déplacées, ça n'interfère pas avec eux autres. Pour ce qui est des populations non autochtones, on parlait de fermeture de villages. Il y a eu un programme de fermeture de villages dans les années 70 en Gaspésie qui a fermé... Je crois que c'est des dizaines de villages en termes d'ordre de grandeur. Puis les populations ont été déplacées vers les grands centres, dans des HLM, près des grosses usines de transformation de poissons vers la mine. Il y a un souvenir très vif en Gaspésie de ces déplacements de population-là, puis des impacts sociaux terribles que ça a eu. Maintenant, Murdochville, c'est ça. Ben, il y a eu un référendum pour fermer la ville. Et puis, les gens qui ont voté à ce référendum-là avaient la mémoire de ces déplacements de population-là qui avaient eu lieu 30 ans auparavant. Puis c'est une des raisons qui a fait en sorte que, à la majorité, ils ont refusé. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient fermer pour pouvoir avoir une compensation pour partir de là, puis qu'ils ne l'ont pas eu. Fait que c'est une dynamique complexe, là, les déplacements de population autour des projets industriels. Maintenant, pour éviter ça, on est dans une dynamique qu'on appelle « fly in, fly out ». On prend les travailleurs de l'extérieur dans les projets extractivistes, on les amène dans la communauté pour travailler dans des dortoirs, puis on les sort de là pour ne pas avoir à construire les infrastructures nécessaires au maintien de la vie familiale, de la reproduction de la société. Puis pour ne pas avoir à dealer non plus avec l'éventuelle fermeture du village quand le projet extractif est terminé. Parce qu'on le sait que c'est ça la finalité d'un projet extractif, partir avec la ressource, puis en laisser le moins possible derrière, ramasser l'argent, puis après ça, fermer la place. C'est comme ça que ça se passe au Québec depuis quelques centaines d'années.
Alors, on voit que ce sont des grosses entreprises, hein, Petrolia, Junex, toutes ces grosses multinationales qui sont là. Est-ce que les médias ont un regard critique par rapport à ça? Est-ce que les médias sont sensibles au travail que vous faites au camp de la Rivière de dénoncer ce qu'il y a derrière, les enjeux qu'il y a derrière?
On est en Gaspésie, on a l'avantage d'être une petite région. C'est autour de 100 000 habitants. Puis les médias sont très sensibles aux questions extractives. On a un super bon accueil de qualité. Les compagnies et les promoteurs de cette industrie-là ne réussissent pas à produire. Ils sont dans le mensonge par rapport à leur projet. Par exemple, pendant longtemps, Petrolia affirmait que son projet Book était un projet d'extraction de gaz conventionnel. Et puis, à un moment donné, il y a eu un silence radio sur le caractère conventionnel du gisement. Il continuait à faire des annonces sur Book sans parler de ça. Puis, ben, à un moment donné, c'est devenu un projet de fracturation au début de l'été. Nous, depuis le début, on affirmait qu'ils n'auront pas le choix de fracturer pour réussir à aller chercher la ressource. Mais ça nous a donné énormément de crédibilité. Donc, les médias sont à l'écoute. On fait beaucoup de recherches. C'est le gros du travail que moi, je fais. C'est énormément de recherches sur les tenants et aboutissants de cette industrie-là. Et les médias ont de l'appétit pour ça. En région, dans la région, en Gaspésie. Par contre, au niveau des médias nationaux, c'est le blackout. Puis quand il y a de la couverture, elle est super complaisante. Petrolia a sorti un communiqué en annonçant 800 millions de barils à Bourque, 800 millions de barils de pétrole. Les médias ont allègrement repris le titre du communiqué. En lisant le rapport de la firme indépendante qui parlait de ces 800 millions de barils, on se rendait compte que c'était 800 millions de barils initialement en place. Et ce qu'il y a à ressortir de là, c'est quelque chose entre 200 000 et 16 millions de barils, soit quelques jours à un mois et demi de la consommation annuelle du Québec. Puis ça, mais on a sorti une analyse de ce communiqué-là qui était très bien relayé en région, mais les médias nationaux qui avaient fait leur grand titre avec le 800 millions de barils, avec le miroir aux alouettes, n'ont pas corrigé le tir en reprenant l'analyse qu'on faisait du rapport de la firme indépendante qui est beaucoup plus collée à la réalité. On commence à sortir dans les médias nationaux, mais c'est embryonnaire. Là. On a beaucoup de mal encore. Puis, on comprend que c'est une grosse industrie. Le gouvernement fait la promotion de cette industrie-là. Les médias les médias traditionnels, nationaux, ont de la misère à faire la part des choses.
D'accord, donc on voit qu'il y a des situations également de collusion et des intérêts qui font que les médias certainement n'ont pas, si j'ai bien compris, intérêt à ce que finalement la contre-information, l'information réelle n'émerge, c'est bien ça?
Ouais, je ne sais pas si c'est un truc de convergence ou si c'est... Les médias nationaux fonctionnent par la crédibilité de leurs sources, puis... ce qu'ils considèrent comme crédible, c'est l'information qui émane du gouvernement. Il y a très peu d'enquêtes qui se font et ils sont très prompts à relayer le message des gouvernements sans faire d'analyse critique. Donc, ce qu'on retrouve dans les médias, c'est souvent purement et simplement de la sténographie des propos officiels.
Oui, voilà, c'est ça, des communiqués qui sont tout simplement relayés sans qu'on les remette en question. D'accord. Selon toi, comment selon toi est-ce qu'on peut arriver à retourner cette situation-là? Est-ce que c'est au travers de l'opinion publique? Est-ce que c'est au travers de blocages de chantiers ou alors d'entités, pourquoi pas même internationales, supranationales? Est-ce qu'il faut aller, parler du droit des peuples autochtones, de l'autodétermination, du droit à un territoire qui ne soit pas souillé. Enfin, quelles sont les pistes, selon toi, qui pourraient être, peut-être y en a-t-il plusieurs, bien sûr, qui pourraient être opérationnelles pour contrer cette chose?
C'est certain que la bataille de l'opinion publique est à mener. On l'a fait, on a gagné contre un projet de pipeline. Le plus gros projet de pipeline au Canada a été mis de côté cette année. Puis c'est ce qui a fait en sorte qu'on a réussi à en découdre avec ce projet-là. C'est une combinaison d'aller chercher l'opinion publique, entre autres sur les possibilités de contamination de l'eau potable. Projet-là en train. On a bloqué les audiences qui est l'office d'autorisation pour ce pipeline-là. Fait que je crois que cette recette-là est à reprendre avec les projets de forage. Puis la bataille de l'opinion publique, on l'amène déjà durement, et puis on a réussi à aller chercher beaucoup de gens de telle sorte que le gouvernement a mis un de ses ministres seniors en charge du dossier de l'énergie au Québec. Pierre Moreau, qui était dans la course à la chefferie du Parti libéral, qui est actuellement au pouvoir au Québec. Puis c'était le deuxième favori. C'est un coriace qu'ils ont mis là. Pour moi, ça donne une indication du fait qu'on a vraiment marqué beaucoup de points dans l'opinion publique, puis qu'ils essaient de renverser la vapeur à ce niveau-là. Après ça, des blocages, c'est certain qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis que si on veut empêcher ces projets-là de voir le jour, ben une bonne façon d'y arriver, c'est tout simplement de les empêcher de voir le jour sur le terrain. À Sainte-Jeanne-d'Arc, ça c'est un peu plus à l'ouest que le campement au Bas-Saint-Laurent, il y a eu un site d'exploration, un site de forage, où tous les équipements ont été incendiés l'été dernier. Il y a eu un petit communiqué qui est sorti sur Montreal Counter Info, qui est un site de diffusion anarchiste montréalais. Et ça a eu presque pas d'écho dans les médias. Mais quand même, on sait que c'est arrivé. On sait qu'il y a eu un site de forage incendié. La compagnie a jamais réagi publiquement à ça, alors que tous les équipements qui étaient sur place sont une perte totale. On se doute bien que ça compromet fortement les projets de forage de cette compagnie-là au Bas-Saint-Laurent, s'appelle Squatex. Après, le blocage qu'il y a eu au site Galt de Junex, c'était au mois d'août. La barricade a été évincée une semaine après sa mise en place. Junex devait forer au mois de septembre, mais le camp de la rivière, qui n'est pas un camp de blocage, qui est un camp d'organisation puis de visibilité, est toujours en place. Et puis, les forages n'ont pas eu lieu. Il y a eu au mois d'août aussi une négociation entre les communautés autochtones de la Gaspésie puis la compagnie pour qu'il y ait un moratoire le temps qu'il y ait des consultations publiques dans la communauté autochtone. D'accord. Moratoire de 4 mois.
Okay.
Puis la mise en place de ce moratoire-là a été favorisée par le fait qu'il y avait une barricade puis par le fait qu'il y a un camp de soutien qui continuait à être actif sur place. OK? Fait que c'est une dynamique où tous les acteurs impliqués finissent par créer une synergie qui empêche la poursuite des travaux. Là, justement, Junex devait forer en septembre. Il y a eu un moratoire de 4 mois pendant les consultations publiques des Autochtones. Les travaux ont été retardés. Il y avait la possibilité que ça reprenne en janvier après le moratoire. Puis, aux dernières nouvelles, Junex planifiait pas de recommencer les forages avant l'été.
OK.
Voilà. Fait que ça, c'est l'état de la situation.
OK. Et alors, dis-moi, tu l'as dit, au camp de la rivière, dont on va immédiatement d'ailleurs donner l'adresse du site internet, c'est campdelarivière.info, camp de la rivière en un mot. Quelle est la situation au camp de la rivière? Quelle est la situation? Quel est le moral là aujourd'hui et à l'aune des prochaines luttes à mener? Est-ce que toi et les personnes qui y êtes, optimistes? Est-ce que vous vous préparez à des choses? Est-ce que, voilà, comment est-ce que vous appréhendez ces prochains temps?
On est très enthousiaste, en fait. Le fait qu'on soit là, ça a créé un rayonnement très important par rapport à ce qui se passe en Gaspésie. Il y a beaucoup de gens qui convergent vers le camp. On n'est pas des masses sur place en tout temps. Je vous dirais qu'il y a des journées qu'il y a une personne, il y a toujours une personne qui garde le site. Puis, fait que les temps les plus plats, il y a une personne. Mais ces projets-là tiennent souvent à ça pendant que le reste de l'équipe est à l'extérieur en train de faire la mobilisation nécessaire à la suite des choses. Et puis, ben, des fois, on monte à 5, 8, 10 personnes. Puis plus quand il y a des événements de convergence là. Mais on est très confiants, en fait, qu'on contribue à faire reculer ces projets-là. Ginex déneige pas le chemin cet hiver. Ça faisait des années qu'il déneigeait le chemin pour accéder au site, puis le chemin des voisins aussi. Puis cette année, ben, ils ont simplement annoncé qu'ils ne déneigeaient pas en raison, dixit, de la présence d'opposants. Mais ils n'ont pas averti les voisins. Fait qu'ils manifestent leur caractère réel à travers ça en disant ben, s'il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire, on coupe les vivres et les services desquels les gens sont devenus dépendants. C'est très, très typique de ce genre de compagnie-là. Mais ils affichent leur vraie couleur à travers ça. C'est ça. Fait que c'est le fun. Il y a un jeu d'alliance qui se crée avec la population locale à travers la présence sur le site. Et c'est très prometteur.
Donc, on peut dire qu'à tout point de vue, le camp de la rivière a un impact réel et que, pourquoi pas, eh bien, l'idée, c'est vraiment d'arriver à infléchir ce qui se passe et pourquoi pas arriver à ce que ce... Il serait possible que le chantier soit abandonné purement et simplement? Ou est-ce que les intérêts sont tellement grands que, quoi qu'il en soit, on ne peut que contenir cette catastrophe sans l'arrêter complètement?
Les chances sont qu'on va pouvoir arrêter ces projets-là. Comme je disais tantôt, là, l'analyse indépendante pour Bourque parlait de 200 000 à gros maximum 16 millions de barils. 200 000 barils, c'est la moitié d'une journée de consommation au Québec. C'est pas grand-chose. Mm-hmm. Ça, c'est au site de Bourque. Au site de Galt, on a extrait 18 000 barils. Ça, c'est à environ 900 000 $ de revenus, alors qu'un puits en coûte 10 millions à forer. Ça, c'est le puits qui a été le plus productif de l'histoire du Québec. Fait que ce qu'on se rend compte, c'est que la ressource n'est pas là tant que ça. Puis ce qu'il y a à préserver, c'est beaucoup plus une image d'une ressource en place. Je m'explique. Au Québec, on est la seule place en Amérique du Nord où le gouvernement finance les forages et les projets d'hydrocarbures. Puis en Gaspésie, c'est à hauteur de 60 %. Donc, il y a beaucoup d'argent à aller chercher dans les coffres de l'État pour les compagnies pétrolières, juste à annoncer des projets, annoncer des volumes de pétrole, puis continuer à faire des trous. Ça ne veut pas dire que, parce que, à notre sens, la ressource n'est pas importante, que il n'y a pas de dommages environnementaux potentiels avec les forages. Seulement, ça rend l'attrait du site beaucoup moins intéressant dans la mesure où la ressource n'est pas si importante que ça. Voilà.
D'accord. On a bien compris. Comment est-ce que, selon toi, on peut arriver à s'informer depuis ici, par exemple, depuis la Suisse, depuis Genève? Parce que quand on s'est parlé pour préparer cette émission, je te parlais justement de toutes des émissions que l'on a fait concernant le Dakota du Sud aux États-Unis, où également le pipeline traversait des terres ancestrales et abîmait les nappes phréatiques, par exemple. Et on voyait que derrière cela, il y avait également des banques suisses, notamment, qui participaient au financement. Alors, est-ce que le site du camp de la rivière, par exemple, c'est une ressource principale sur laquelle on peut s'informer?
Moi, je vous dirais, malheureusement, on est beaucoup sur Facebook. On n'aime pas l'outil, on n'aime pas ce qu'il représente, mais c'est quand même là qu'on met le plus d'informations en ligne. Donc, Facebook, camp de la rivière, Facebook, Environnement Vert Plus.
D'accord, et là, on trouve...
Ça, c'est Environnement Vert Plus. C'est l'organisation dont on a trouvé le nom dans les années 80, de laquelle je suis porte-parole. Et c'est Environnement Vert Plus qui avait appelé à la formation du camp de support qui est devenu le camp de la rivière. Et sur ces deux Facebook-là, on poste énormément d'informations non seulement technique, mais politique autour des enjeux qui touchent au dossier de l'extraction des hydrocarbures en Gaspésie. Puis aussi le site web de Environnement Vert Plus, environnementvertplus.org, sur lequel on peut trouver énormément d'informations sur les projets d'hydrocarbures dans la région et sur la résistance qui s'opère là-bas.
D'accord. Pascal Bergeron, je te remercie beaucoup. On arrive doucement au terme de cet entretien. J'ai encore une petite question. J'avais juste envie peut-être d'en rajouter ce que tu connais, parce que moi, en préparant cet entretien, je suis tombé sur un article assez intéressant sur le site lepharillon.ca qui s'intitule « Le camp de la rivière ne lâche pas le morceau ». Ça, c'est un... Oui. Tu connais? C'est quelque chose de fiable?
C'est un de nos médias régionaux qui est détenu par une grosse corporation. Là, c'est Transcontinental. Transcontinental, c'est un des gros joueurs médiatiques au Québec. Au Québec, Canada, Amérique du Nord. Et ils possèdent un lot de médias régionaux. Et puis Le Pharillon, c'en est un. Avec les journalistes locaux qui sont conscients des enjeux puis qui finissent par publier beaucoup du matériel qu'on leur envoie.
D'accord. En tout cas, là, moi, je m'en suis beaucoup inspiré, puis il y a pas mal d'informations que je trouvais intéressantes. Quel est l'agenda des luttes? Que va-t-il advenir ces prochains temps au camp de la rivière, par rapport au camp et par rapport au, je veux dire, par rapport au chantier, d'une part, et par rapport au camp, d'autre part?
On reprend nos activités normales. Je vous dirais, au camp comme tel, visite, trappe, on va trapper lièvre, mais aller bûcher du bois pour chauffer les espaces. Mm-hmm. Fait que ça, c'est au camp de la rivière comme tel. Au niveau de la diffusion d'informations, il y a des informations mensongères qui ont été sorties par le ministère de l'Énergie sur lesquelles on va taper dans les prochaines semaines. Entre autres, une carte des rayons de protection avec les nouveaux règlements où on exagère le rayon de protection autour des bâtiments par rapport aux règlements qu'on est en train d'adopter. Donc, sortir ce gros mensonge-là qui était le fait du ministre de l'Énergie. Après ça, il y a un règlement qui interdit les manifestations non autorisées à Gaspé, un règlement municipal pour lequel j'ai reçu une contravention au mois d'août. Je passais des flyers, des dépliants, des tracts sur la rue pendant un marché public. J'ai été interpellé par la police et on m'a donné une amende de 271 $, 150-200 euros pour avoir passé des tracts sur la rue. Je suis en train de monter une contestation constitutionnelle de ce règlement-là. Donc, ça va amener la lumière sur la ville de Gaspé et sur un règlement qui interdit la manifestation. Puis, avec un peu de chance, on va réussir à casser le règlement. Fait que ça s'en vient fin février. Fin février aussi, il y a l'enquête préliminaire de Freddy Stony Point. Freddy Stony Point, c'est la seule personne qui a été arrêtée derrière la barricade le 15 août quand elle a été démantelée. C'est un Anishinaabe, étudiant à l'Université d'Ottawa. Et puis là, il fait face à des accusations de méfaits de plus de 10 000 $. Ils n'ont pas embarqué les lois antiterroristes dans la game, mais il y a plusieurs chefs d'accusation qui pourraient mener à une sentence de prison. Et puis il va subir son enquête préliminaire à partir du mois de février. Donc on organise la solidarité avec Freddy. À court moyen terme, c'est pas mal.
D'accord.
Ce qui s'en vient.
Bah oui, effectivement, il y a déjà pas mal d'activités là. Écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations là. Nous, en tout cas, de notre côté, on va bien entendu se tenir informé, se tenir en alerte, et puis on reviendra vers toi pour peut-être continuer et revenir refaire un sujet pour dire ce qui se passe, parce qu'effectivement, cette question de la fracturation, c'est une question qui concerne le monde entier. Cette question des hydrocarbures également, et puis cette manière de faire et de criminaliser les mouvements sociaux, c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes sur différents continents. En tout cas, nous, c'est vrai qu'on était extrêmement sensibles quand on a regardé, en préparant cet entretien, de voir ces photos magnifiques hein, de la région, de la péninsule de la Gaspésie. Et puis, on se dit que c'est vraiment terrible de souiller ces forêts qui sont splendides et qui vont trouver des couleurs. Là, vous êtes en quelle saison maintenant là-bas? Vous êtes comme nous, en fait, en hiver.
En hiver et l'hiver c'est rude, là, les routes ont été fermées hier.
Parce que j'ai vu
les routes réouvraient aujourd'hui.
Voilà, j'ai vu qu'aux États-Unis, il y avait une vague de froid. C'est la même chose en Gaspésie. C'est tout blanc et glacé.
Ouais, comme à tous les hivers. Mais là, la tempête qui vient de passer était assez sévère. Là.
D'accord.
Ouais. Ah oui, puis ouais, un truc que j'aimerais porter à l'attention des auditeurs là, pour une image par rapport à la Gaspésie. On a des rivières d'une pureté assez inégalée ailleurs dans le monde. Quand on dit que nous, au camp, on profitait de l'été au mois d'août, au mois de septembre, on allait se baigner dans la rivière York qui est à 5 minutes à pied du camp. Mais cette rivière-là, quand on la surplombe, quand on est en haut de la falaise, on voit le fond. C'est des rivières d'eau potable. On se baignait et on buvait l'eau en même temps. Il n'y a pas beaucoup de place dans le monde où tu as des rivières d'eau potable qui coulent. Et puis là, ce qu'on propose de faire avec Bourque et Galt, c'est de forer, de fracturer dans les bassins versants de rivières d'eau potable. Je crois que même les rois d'Arabie Saoudite nous trouveraient imbéciles de faire ça puis de laisser aller ça. On pourrait peut-être, en tout cas, je lance l'idée, on pourrait aller leur demander du financement pour la lutte et je crois
absolument
qu'ils seraient d'accord.
Oui. Non, mais tu as raison. C'est incroyable. C'est effectivement, c'est tellement à l'envers du bon sens que d'abîmer comme ça, d'autant plus que l'on sait que le retour en arrière ensuite est quasiment impossible. Une fois qu'on a souillé ces nappes phréatiques, souillé ces rivières, c'est extrêmement compliqué après de démanteler tout ça. Écoute, je te remercie beaucoup, Pascal Bergeron. On va s'arrêter là.
Oui, on pourrait en parler encore longtemps. Mais,
on va le faire. On va trouver des meilleures conditions parce que c'est vrai que là, le son est mauvais. Mais quoi qu'il en soit, nous, on reste en contact et puis on va trouver des conditions meilleures.
On trouvera des meilleures.
Ouais, on fera un framatoc. On passera par autre chose. Ouais, effectivement. Pascal Bergeron.
Oui, merci beaucoup. À la prochaine.
Ah oui, merci beaucoup à toi. Et puis à la prochaine alors. Merci encore pour toutes ces informations-là. Et nous, on le rappelle, le site internet du Camp de la Rivière, c'est www.campdelarivière.info. Tout ça en un seul mot. Voilà. Alors, nous arrivons doucement au terme de cette émission. Nous étions en compagnie de Pascal Bergeron pour le Camp de la Rivière en Gaspésie, hein, lutte contre le déplacement de population, le pillage des ressources naturel, l'extractivisme, la fracturation et les hydrocarbures. Et mes livres sont à vous parce qu'en ce moment même, chez Sylvain Thévaux, ici à Genève, eh bien, les gens pillent sa bibliothèque. C'est pas mal ça. Alors, si tu es dans les parages, précipite-toi au 55 rue de Montchoisy où, à l'occasion de la fête des rois, tu peux partager un verre de vin chaud et emporter les livres qui te plairont. Et la bibliothèque de Sylvain, à mon avis, ça va être une bibliothèque quand même sympa.
Tête de femme à cheveux bruns. Une tête de femme à cheveux bruns, fortement pommadée. Lente et bête avec des déficits, fortement pommadée. Gris.